Hold on, everybody. Here it comes.
Spotzle, le podcast des cyclistes aventuriers, épisode de 88, ici Richard Delhomme, avec la voix cassée comme d'habitude, merci les enfants. Aujourd'hui, je discute avec Jean Linsprier, ou plus exactement, j'ai une discussion passionnante avec l'incroyable Jean Linsprier. Vous avez été nombreux à aimer les épisodes récents, avec des personnages délirants venus au vélo plutôt sur le tard, eh bien Jeanlin est exactement de la trempe des personnages susnommés. Il déploie une curiosité, une passion et une dévotion sans faille, que ce soit pour faire le Tour de France randonneur avec l'inestimable Arnaud Manzanini, rouler les premières étapes du Tour de France en pignon fixe, ou simplement expérimenter le jeûne. Avant de lancer l'épisode, si vous écoutez ce podcast pour la première fois, bienvenue. En fouillant dans les notes de l'épisode, donc le texte additionnel qui va avec chaque épisode, vous trouverez de quoi suivre Jeanlin ainsi que Spotzle sur les réseaux. Les abonnés à la newsletter ont reçu cet épisode lundi matin avec un récit de Grégor sur un périple gravel chez lui, en Namibie, et une idée de parcours à réaliser quand la fin du monde et l'apocalypse seront reportés à une date ultérieure. Si vous n'êtes pas abonné, foncez sur le lien et rejoignez-nous. Sans plus attendre, Jeanlin Sprier.
Tu m'entends ?
Eh bien, je t'entends très bien et n'arrivant pas à passer par un canal, je passe par un autre et puis
et
voilà.
Ben voilà.
Et c'est ainsi une illustration parfaite de la capacité d'adaptation en live. Voilà.
Exactement.
Bon, comment ça va ?
Eh ben, écoute, très très bien. Tu sais, je viens de courir une petite heure. Pas de vélo pour moi. Je sors d'un jeûne aussi, donc tu vois, j'ai voilà, pas mal de nouveautés.
Bon, alors, tu vas me raconter tout ça, mais avant, bon, pour ceux qui ne te connaissent pas, les pauvres, qui es-tu ?
Hola !
Alors, ça veut dire bonjour en espagnol, très bien.
Je m'appelle Jeanlin, j'ai 42 ans, je suis marié, j'ai pas d'enfant, et je suis un amoureux de la bicyclette. Voilà, un amoureux de la bicyclette et puis quelqu'un de très curieux, donc j'essaye de réfléchir au pourquoi du comment de temps en temps, parfois un peu trop, mais et puis de temps en temps ça, il y a des choses qui marchent et qui fonctionnent, et puis j'essaie d'évoluer comme ça et d'apprendre de ce que j'ai, de la curiosité que j'ai eue.
D'accord, voilà. Donc t'es curieux dans le sens où ouais, tu fais preuve de curiosité, pas curieux dans le sens bizarre.
Non, curieux dans le sens vraiment j'essaie de comprendre les choses et de me poser des questions sur comment je fais pour arriver à tel endroit, ou comment je fais pour comment un vélo fonctionne, ou comment on pourrait le rendre plus efficace, ou plus simple, ou plus agréable, ou bien comment est-ce que moi je fonctionne, comment où je suis, voilà.
Alors, tout comment, simplement. Comment tu en es arrivé à te poser toutes ces questions ?
Écoute, je
ne fais que ça.
Ouais, et je suis de nature assez curieuse depuis très longtemps. J'aime ne pas rester sur mes acquis. Donc, lorsque j'ai un truc qui me semble tellement évident que je me pose la question, je me dis, c'est peut-être le moment de se poser la question, quoi, en gros. Donc, j'essaie de le faire avec pas tout, mais en tout cas des sujets qui m'intéressent. Et puis, j'ai commencé avec le vélo comme ça.
Qu'est-ce qui t'a amené sur un vélo, justement ?
Un pote. Qui est non c'est vrai
voilà
un de mes très bons potes qui est un de mes témoins de mariage, tu vois, c'est pour dire, à qui on a offert pour ses 30 ans un pignon fixe, et j'ai dit mais ça sert à quoi ton truc, et donc j'ai compris, je m'en suis acheté un quelques mois après, j'ai monté, je partais au vélo taf comme bon nombre d'entre nous en vélo, sauf que le mien était en pignon fixe et sans frein, et puis comme bon nombre, il y en a beaucoup aussi qui continuent à faire ça, hein, voilà. Et puis au bout d'un moment, je suis allé un petit peu plus loin que la porte du magasin pour lequel je travaillais, Et puis j'ai fait quelques rides à droite à gauche. Et puis un beau jour, je suis allé à Orléans sans compteur GPS, avec un sac de Messenger et des raisins secs dans mon dos, avec un bidon qui n'était pas accroché à mon cadre, mais dans mon dos aussi, donc c'était pas très pratique. Et puis un beau jour, j'ai un copain qui m'a dit ah bah tiens, on va faire un tour dans les Pyrénées. On va faire un petit tour dans les Pyrénées avec des copains irlandais. On a fait des super barbecues et puis entre-temps, on a fait 150 ou 160 bornes avec le Tourmalet, l'Ourcade dans 6 ans, le col d'Aspin, enfin bref. Une petite virée, quoi, en gros. Et là, ça a été un peu le coup de foudre, tout simplement. Alors, j'ai fait un temps absolument exécrable, mais ça n'a aucune importance parce que quand l'entraînement que j'avais eu, c'était pas ça l'objectif. Et c'est là aussi à ce moment-là où je me suis rendu compte de la beauté du spectacle que j'avais devant les yeux, notamment en montant par Lucien Sauveur le Tourmalet. Et là, je me suis absolument régalé. Ça a été, je suis tombé assez amoureux alors du lieu et puis aussi de la manière dont on voyageait dans ces paysages-là. Et puis j'ai continué tout simplement. J'ai continué. Après, j'ai enchaîné. Qu'est-ce que j'ai fait après? J'ai fait Manchester to London, qui était organisé par Rafa pour lever de l'argent pour les enfants autistes. Ensuite, j'ai fait la ronde d'Aliénor d'Aquitaine. Et ensuite, j'ai fait Paris-Brest-Paris, les BRM évidemment qui vont avec. Et puis j'ai terminé avec. J'ai fait aussi les 7 majeurs et une partie de l'Ultra de Lumitica que j'ai arrêté avant. Et puis j'ai terminé là cette année avec le Tour de France en honneur. Voilà.
Eh ben, je vais te souhaiter une bonne journée. Parce que, ben voilà, t'as dit l'essentiel. C'était précis, rapide, concis. Donc.
Mais c'est. Encore une fois, tu m'entends? Allô?
Oui, alors bonjour déjà. Et comme à vélo, il me faut un petit temps d'adaptation. Tu vois, à chaque épreuve, il me faut une heure et demie, deux heures, parfois les jours où ça va mal, pour vraiment être dans le rythme. Et là, après, ça déboîte. Mais le début est toujours un petit peu difficile et voilà. Mais bon, c'est
ça ainsi. Arrive.
Bon, alors, j'en déduis à la lumière plutôt de ce que tu viens de me dire, que tu n'es pas un cycliste qui a pratiqué depuis son jeune âge.
Pas du tout. Moi, c'est venu. J'ai fait du VTT lorsque j'étais gamin, mais en mode rando parce que j'ai mes parents qui marchent à côté, quoi. Enfin, voilà.
Ouais.
C'est tout.
Est-ce que tu arrives à expliquer aujourd'hui encore, avec une dizaine d'années d'écart, ce coup de foudre soudain à ce moment de ta vie? Pourquoi tu ne t'en es pas rendu compte? Pourquoi le vélo? Et pourquoi ça a surgi dans ta vie à ce moment-là? C'est la minute existentialiste.
Au début, c'était juste un moyen de déplacement et qui me faisait du bien, parce que lorsque j'arrivais au boulot, j'avais la sensation d'être frais et dispo. Mmh. Et puis, au fur et à mesure, j'ai trouvé d'abord la possibilité de ressentir beaucoup plus les choses dans un cadre qui me convenait, à savoir la nature. C'est-à-dire, tu vois, que ça soit durant le Tour de France ou ailleurs, il y a eu des spectacles de coucher de soleil ou de lever de soleil qui ont été extraordinaires, au point d'en verser, tu vois, des larmes. Et c'est vraiment c'est fort, quoi. C'est tu d'être touché à ce point-là, c'était juste extraordinaire, vraiment. Je pense que donc ça a été une petite chose ça m'a fait énormément de bien, en fait, de verser ces petites larmes, de dire, ah, mais oui, mais ça existe, en fait, cette beauté-là. Pas la beauté que de la nature, mais je peux me laisser toucher par quelque chose. Donc ça, j'ai trouvé ça très, très marquant. La deuxième chose que j'ai trouvé géniale, c'est que c'est très simple. Fondamentalement, t'as quand même juste deux roues, un pédalier et ton énergie. Et qu'importe ton allure à laquelle tu roules, ce qui est génial, c'est de sentir juste la douceur du vent, ou la fraîcheur parfois du vent aussi, contre tes joues, tes mains, tes cuisses, ton corps. Et ça fait... Il y a une espèce de liberté, en tout cas, moi, je ressens énormément de liberté à cet endroit-là, que j'aime beaucoup. Je trouve que en tout cas, ça me... Il y a un truc où ça me dénude, si je puis dire, tu vois, ça m'enlève des couches de superficie dont j'ai pas besoin.
Est-ce que c'est une sorte de contraste nécessaire avec ton activité professionnelle? Alors, sans rentrer dans le détail, tu as travaillé ou travailles dans diverses grosses chaînes de magasins à Paris où c'est parfois un petit peu compliqué et voilà. Est-ce que c'est aussi un contraste salvateur et nécessaire?
Ça a pu l'être. Aujourd'hui, ce n'est pas spécialement. Et lorsque j'ai pas trop. Peut-être que ça l'a. Enfin, ça l'a été, pardon, à certains moments, mais pas tout le temps. C'est pas systématique.
Donc, quand tu travaillais dans un environnement de pierre de Toscane et d'aluminium brossé, ça se passait bien.
Exactement. Exactement. À certains égards, oui. Et puis, à d'autres moments, dans ce même environnement de pierre de Toscane et d'aluminium brossé, et à d'autres moments, ça a été salvateur, oui, bien sûr.
Ouais. Pourquoi cette escalade? Parce que tu aurais très bien pu te contenter du vélo TAF, d'aller tourner à Longchamp, d'aller faire un classique challenge de temps en temps. Pourquoi cette escalade dans la folie, si on peut dire? Ou dans la démesure, plus exactement, ouais. Parce que c'est pas de la dans folie.
Non, et même... Je vais peut-être choquer certains, mais même la notion de démesure, je vais juste expliquer pourquoi. Ce qui est amusant, c'est que moi, ce que je découvre au fur et à mesure, c'est que nos corps sont capables de s'adapter de manière extraordinaire. Et en fait, on se rend compte qu'avec un minimum d'entraînement, en fait, tu fais des choses dont tu ne te soupçonnais pas. Et tu vois, dans l'occurrence, je sors d'un jeûne de 7 jours, donc j'ai mangé rien pendant 7 jours, j'ai bu de l'eau, des tisanes et quelques bouillons de légumes. Autant dire que c'est léger.
C'est presque frugal même.
On pourrait le dire comme ça. ça m'a pas empêché de courir tous les jours entre 45 minutes et 1 heure. Mmh. J'ai découvert des sensations dont je n'imaginais pas. J'ai couru de mieux en mieux au fur et à mesure que la semaine passée. Et sans chronomètre, je te dis ça aux sensations pures, hein, donc sans ouais. chronomètre, sans cardio-fréquence mètre, j'avais rien du tout. Hein. J'ai découvert une légèreté que je n'avais pas ressentie depuis très longtemps. Tu vois, il y a plein de choses en fait que tu redécouvres et dont tu te rends compte que en fait ton corps est complètement capable de faire. Et ça, finalement, je crois que c'est aussi une très bonne leçon, c'est de dire, ça sent complètement démesuré de faire 5000 bornes en vélo, et en même temps, en fait, c'est réalisable. Enfin, tu vois, je suis pas un sportif de haut niveau, j'ai pas des capacités cardiaques ou physiologiques qui sont outstanding, comme on dirait, ou qui dépassent la nature. Je sais pas de...
T'es un mec normal, en fait.
C'est ça que t'essayes de dire. Normal. Complètement, ouais.
T'as redécouvert quoi comme sensation?
En revanche, il faut du temps. Ça, je suis tout à fait d'accord pour reconnaître.
Du temps pour quoi?
Du temps pour se préparer, du temps pour s'entraîner et du temps pour rouler. Parce que mine de rien, 20 jours, c'est quasiment un mois.
Et oui. Donc, c'est le temps que les 5000 kilomètres vous ont pris.
Exactement.
Ouais, ok. Tu as découvert quelle sensation, parce que tu parles de légèreté, tu as découvert quelle sensation à travers le jeûne?
Alors, plusieurs. D'abord que le vide, c'est-à-dire le rien ou le manque de quelque chose, est en fait créateur. C'est-à-dire que ça te permet d'avoir de la créativité. Ça, c'est le premier truc. Alors que pour moi, c'était une angoisse. Le deuxième truc que j'ai trouvé absolument passionnant, c'est de, là tu vois, je le redécouvre depuis hier où j'ai recommencé à manger, donc c'est des choses extrêmement frugales. Hier tu vois, j'ai mangé des graines de blé germé, j'ai bu un jus de carotte et des betteraves et du persil, tu vois, donc c'est assez light, hein. Et c'est normal, c'est aussi un temps de réadaptation. Et en fait, je réapprends à goûter peu et à sentir la quantité. À quel point, une betterave me nourrit. C'est-à-dire que c'est plus une sensation que j'avais. C'est-à-dire que je bouffais, mais je ne prenais pas de le sentir à quel point la betterave, en l'occurrence, ou le jus de carotte, peu importe, me donnait de l'énergie dans mon corps. Et c'est ça qui est c'est ça qui est fou, tu vois. Ce matin, lorsque je suis parti courir, j'ai senti que je pouvais accélérer. Alors que hier soir, j'ai bouffé une grosse betterave, 40 centilitres de jus de carotte, des branches de persil et qu'est-ce que j'ai mangé d'autre ? Et c'est tout, tu vois. C'est quand même pas grand-chose. Donc il y a plein de nouvelles sensations comme ça qui sont, enfin, ou que je réapprends en tout cas à découvrir.
Et tu mangeais comment avant ? C'était la grosse bouffe, sandwich, pizza, kebab, ou quand même c'était un petit peu plus équilibré ?
Non, j'ai toujours bouffé équilibré, mais trop.
Alors ça veut dire quoi, trop ?
Je bouffe pas de kebab, je bouffe pas de McDo, je bouffe pas de fast-food en général. J'aime pas ça. Bon, voilà, et je le digère pas en plus de ça d'un point de vue transit, ouais. Clairement. Et ça veut dire que je bouffais trop. Tu vois, je bouffais, j'en sais rien. Moi, là où je bouffais 200 grammes de riz, ben en fait 100 grammes me suffisent. Peut-être ouais. Que c'est 50 d'ailleurs, j'en sais rien. Là où je bouffais, j'en sais rien. Moi, où je me resservais deux fois, peut-être qu'une seule fois c'était amplement suffisant. Et puis ça, il y a la quantité, et puis après il y a les apports. C'est-à-dire que dans mon cas, en tout cas, je bouffais trop de fromage et pas assez de protéines. Je bouffais trop de féculents et pas assez de légumes verts. C'est des trucs bêtes et méchants dont on nous rabâche les oreilles dans chaque encart publicitaire ou quasiment. Mm-hmm. Mais en fait, tant que j'ai pas eu j'ai eu besoin de passer par cette expérience-là en fait pour me rendre compte. Mais ah mais oui, mais en fait je m'alimente pas suffisamment bien et je fais pas attention à moi finalement. C'est aussi une forme de destruction de mauvais sort, mais c'est pas une manière de s'entretenir, en tout cas c'est pas une manière de mettre de l'argent dans son PEL, quoi, si je puis dire.
Ouais. Et je suppose que là ces 7 jours se sont traduits par une perte de poids quand même.
Oui, ouais, tout à fait, j'ai perdu alors la balance ici me dit 7, je pense que je suis plus proche de 6,5. Bon, c'est pas très très grave. Et dans ces 6,5 kg ou 7 kg, ça n'a plus d'importance. Il y a globalement les 3 premiers jours, tu perds 3, moi j'ai perdu 3 kg les 3 premiers jours. Sur ces 3 kg, il y a beaucoup de flotte. Et tu perds aussi tout ce que tu as dans tes intestins, ton estomac et les mauvais trucs qui traînent en surface, quoi, en gros, et tu perds toutes tes réserves de glycogène. Donc ça, c'est 3 kilos. Sur les 4 autres, entre 2,5 kilos et 3 kilos, en fonction des personnes, et patati et patata. Sur les 4 autres, pour simplifier, j'ai dû perdre au moins 3 kilos de graisse, et 1 kilo de muscle, à peu près. C'est l'ordre de grandeur. Et sur la quantité, à mon avis, j'ai perdu plus que 3 kilos de graisse, mais bon, ça c'est à vous voir avec le temps, simplement parce que je connais mon corps, hein, c'est tout. Et l'autre truc, c'est ce qui est hyper intéressant surtout, c'est qu'au bout du 3e jour, en fait, même au bout de la 13e heure, excuse-moi, tu as un régime cétogène qui se met en place dans ton corps. C'est-à-dire que ton corps va piquer non pas dans les sucres, puisqu'il n'a plus de sucre, qui est en tout cas sa principale source de nourriture, il va piquer dans les graisses, dans les stocks que tu as en réserve. Et c'est à cet endroit-là, en fait, que tu mets en place un système qui, pour l'endurance, en plus ça, les sports d'endurance, est excellent, et qui consiste à alimenter ton corps, non pas avec du sucre rapide, mais avec du sucre lent. Donc ce qui a un avantage, c'est que c'est vraiment à long terme, c'est-à-dire que tu apprends à ton corps à t'alimenter régulièrement et à long terme en tapant dans les graisses. Et l'inconvénient, c'est que tu n'as pas de l'énergie pour être hyper frais tout de suite et partir au quart de tour, quoi. Ça ne marche pas comme ça. C'est-à-dire que ça veut dire que la transformation de l'énergie, du sucre en énergie illico, ça arrive très rapidement dans ton sang, et donc du coup tu as beaucoup d'énergie rapidement, alors que dans le cadre d'un régime cétogène, ton énergie se transforme plus lentement, en tout cas dans mon expérience, et c'est un début, ce n'est que 7 jours, donc peut-être qu'après ça arrive plus facilement parce que ton corps est habitué, et c'est tout à fait possible aussi.
Ouais, j'ai quelques contacts comme ça qui fonctionnent de cette manière. Je pense à Cédric par exemple. Alors ça fait un petit peu les grosses têtes, hein, Cédric de Vierzon, qui fonctionne de cette manière-là depuis longtemps à vélo et à pied. Et, ouais. Et il se retrouve maintenant aisément à faire 100, 120, 130 kilomètres sans à jeun. Donc moi je l'ai croisé en mars sur un 200 à Orléans et il était à jeun.
Ouais.
Et bon, on n'a pas pu vraiment se mesurer parce qu'il était avec un ami à lui qui n'avançait pas vraiment. Donc, on n'a pas vraiment encore... on n'a pas pu vraiment échanger, pas pu vraiment échanger là-dessus. Ouais. Sur ta, sur ton changement de physionomie, est-ce que t'arrives à dire à quel endroit la perte de poids a été la plus sensible ? Est-ce que t'as perdu des joues ? Est-ce que t'as perdu des bras, des cuisses, des fesses ? Est-ce que t'as le ventre un petit peu plus plat ? Je suppose que oui.
Ouais. Ouais. Alors si je descends de, si je vais de haut en bas, donc joue, cou, épaule, tout le haut du buste, le ventre aussi, bien sûr, ouais. Carrément, les cuisses aussi, les fesses, et voilà.
Donc tu vas flotter dans tes fringues en fait quand tu vas les reprendre.
Là, voilà, exactement. Ouais. Ou bien je rentrais, ou bien je tirais sur les boutons et les boutons n'auront plus de problème.
Ouais. C'est assez satisfaisant, hein. Tu verras cette sensation de se dire tiens je flotte dans mes fringues. Alors c'est un peu vexant en fait sur avec un cuissard parce qu'on est moins bien tenu en fait quand on est habitué à être un petit peu serré. On est moins
T'as l'impression d'avoir des baloches un peu moins grandes, c'est ça ?
Non, c'est plus à l'arrière au niveau des fesses. En fait, on a l'impression que le cuissard est détendu. On se dit merde, je l'ai niqué dans la machine à laver. Il va falloir que j'en demande un autre ou que j'en achète un autre. Non, les baloches, bah tu sais, de toute façon, après une heure et demie de vélo, les baloches, elles sont rétractées sous les aisselles. C'est plus un problème. est-ce que pourquoi tu t'es lancé dans cette expérience de jeûne ? C'était de la curiosité, encore une fois un moment un peu existentialiste de crise de quarantaine ou une manière ludique de vivre ton confinement ?
Non, c'est plutôt philosophique existentialiste. Ouais, j'avais besoin de d'appréhender le vide et le fait d'accepter que de pas avoir quelque chose. Et alors, il peut y avoir une partie aussi frustration et des choses comme ça, mais que ça soit pas gênant. Tu vois, et à aucun moment j'ai eu faim, à aucun moment j'ai eu envie de me jeter sur la bouffe. Non, c'était plutôt une forme de se dire de quoi j'ai vraiment besoin, ce qui m'est utile, ce qui ne me l'est pas, et à quoi me sert à quoi ça me servait de bouffer depuis autant. En fait, tu vois, j'ai vu mes réflexes, tu vois, je voyais mes bras partir, enfin quelques réflexes, tu vois, dis, ah bah tiens là je prendrais bien une deuxième fourchette, bah non en fait j'en ai pas besoin, quoi. Comment je suis, et de prendre le temps, tu vois, de ralentir en fait véritablement.
Est-ce que c'est, alors je reviens là-dessus, est-ce que c'est quand même malgré tout un petit mouvement de réaction à tes expériences pro-passées qui sont très très basées sur la gratification instantanée, donc sur l'assouvissement d'un plaisir un peu impulsif sans qu'il y ait de besoin réel ?
Non.
Non.
Non, non, là c'était vraiment... Non, tu sais, j'ai un parcours de psycho derrière moi aussi. Là c'était plus une continuité dans mon cheminement personnel.
Ouais. T'as fait un parcours de psycho. Comment tu t'es retrouvé à bosser dans des magasins en ayant un parcours de psychothérapie ?
En fait, je l'ai fait en parallèle.
Ils n'ont pas voulu de toi ?
En psycho ou dans les grands magasins ?
Bah, les magasins s'est plié, ils ont voulu de toi. Mais c'est plus en psycho, ils se sont dit non, lui, il est trop normal.
Non, pas du tout. Je me suis toujours intéressé, tu vois, au développement personnel depuis très longtemps, depuis mon premier job, c'est pour te dire. Ouais. J'ai découvert un truc qui s'appelait l'ennéagramme, qui sont des profils de personnalité, qui sont dynamiques, t'es pas figé dans une boîte. Ouais. Ensuite, j'ai découvert un truc qui s'appelait la gestalt thérapie, qui est une forme de thérapie. J'ai continué un petit peu tout ça, et puis après j'ai eu des expériences diverses et variées de remise en cause, de réflexion, de thérapie tout court, de personnel j'entends, et puis un cheminement personnel après avec des échanges, avec des découvertes, des rencontres aussi énormément, et qui m'ont amené à ça, tu vois.
Est-ce que tu pratiques la méditation ?
Pas du tout.
Pas du tout.
Non.
Tu es hermétique à ces trucs-là ou tu n'as jamais eu l'occasion ?
Non, j'ai jamais eu l'occasion.
Ouais. Donc tu es ouvert.
Oui, absolument. Ouais. Non, ce que j'ai pratiqué, c'est des séances de chamanisme, tu vois.
Et ça, c'est qu'est-ce donc ? Explique-moi.
Le chamanisme ?
Ouais.
Alors, c'est une. Bon, un chaman est une personne qui soit aux États-Unis, en Sibérie, en Mongolie, en Papouasie et je ne sais où, qui fait le lien entre les esprits et le corps terrestre, le corps humain terrestre. Et donc, lorsque un corps humain ne va pas bien, il y a besoin de, selon leur manière de faire, il y a besoin de réguler. Et la communication, donc le lien qui existe entre la personne terrestre et et les esprits. J'ai utilisé ce mot-là simplement pour désigner l'au-delà, le mystérieux, tout ce que tu veux, et qui correspond au chaman en question. Et donc le chaman était là comme un espèce de mentor dans un village, il était là comme un espèce de guérisseur dans un village, il était là comme un maire dans un village, donc il avait beaucoup de rôles. Et tout le monde ne devenait pas chaman.
Et ça, tu retires quoi de cette expérience?
Alors d'abord il y a quelque chose au-delà. Moi je suis convaincu. Après je ne cherche pas à imposer quoi que ce soit à qui que ce soit. Je suis convaincu qu'il y a une autre sphère au-dessus de nous qui communique avec nous. Ça ne veut pas dire qu'elle nous dirige, mais elle communique avec nous et on travaille. On a du mal en tout cas à travailler avec elle. Donc je pense qu'il y a un peu de cohérence entre les deux parfois. En tout cas, on m'aide. Voilà. Donc j'essaie de trouver des ou de lire les signes aussi ou des choses que je reçois ou des choses que j'entends, des choses que je vois et de me dire tiens comment ça m'interpelle ça, où est-ce que ça m'amène. Voilà. Donc j'essaie de vivre un petit peu plus en cohérence avec ça, comme certains, tu vois, comme des fonctions. Alors je pense à des brasseurs, je pense à des personnes dans l'agriculture de manière générale et vaste. Je pense à des brasseurs, à des viticoles, à l'agriculture qui travaillent en mode biodynamie. La biodynamie, c'est quoi? C'est travailler avec la lune. Voilà. Donc c'est à peu près le même principe, sauf que ça correspond à l'être humain.
D'accord.
Et d'ailleurs, l'être humain fonctionne aussi avec la lune.
Dis-moi, est-ce que le fait de ne pas avoir été un cycliste qu'on pourrait qualifier de ancestral, dans le sens où tu ne pratiques pas depuis ton plus jeune âge, a favorisé ta fascination pour le vintage et les étapes d'antan? Si tu avais grandi avec le vélo, est-ce que tu aurais la même fascination pour ces trucs-là?
Aucune idée, peut-être.
Peut-être. Donc, est-ce que tu peux me raconter un petit peu ce que tu as fait sur les étapes d'antan?
Ah,
tu l'avais pas vu venir ça.
Non.
Suspense.
Ouais, exactement. En fait, j'ai le Tour de France en honneur. Ça fait partie de l'héritage cyclotouristique français. C'est-à-dire que c'est une étape qui date des années, la fin des années 50, début des années 60, qui existe depuis assez longtemps, donc, comme beaucoup d'autres épreuves. Paris-Brest-Paris, qui fait partie du patrimoine cyclotouristique français, existe depuis la fin du 19e siècle. Qu'est-ce qu'il y a d'autre? Les diagonales depuis je ne sais plus quelle année, les rayons, les flèches, et ainsi de suite, les BRM aussi. Donc, c'est fait partie voilà, du patrimoine. Et j'ai eu le sentiment aussi d'aller un peu trop vite en besogne, si je puis dire. Et je me suis dit, mais non d'un chien, parmi les classiques, il y a quand même un certain nombre de choses à faire aussi. Et parmi les classiques, j'entends les classiques au sens un peu large du terme, parce que en fait, je me suis intéressé aux classiques en général, donc Tour en Lombardie, Paris-Roubaix, Liège-Bastogne-Liège, Tour de Flandre.
Ce qu'on appelle les monuments, donc.
Ce qu'on appelle les monuments. Et en fait, parmi ces monuments, il y en a certains qui n'existent plus. L'un d'entre eux, et d'ailleurs une des plus anciennes, elle s'appelle Bordeaux-Paris. Oui. Il y a eu un Bordeaux-Paris, je crois, la dernière édition a eu en 2014. Il faut juste imaginer que nous, là où aujourd'hui on le voit ça comme un truc cyclotouristique, voilà. En fait, à l'époque, c'était une vraie course. C'est-à-dire que le gars qui gagnait Bordeaux-Paris, c'était champion du monde, quoi. Je caricature, encore une fois, mais c'est juste pour montrer la notion de prestige qui allait avec. Donc il y avait cette étape, il y avait cette course-là. Il y avait une deuxième course qui s'appelle Paris-Tours et qui existe toujours, et qui aussi était un des marqueurs dans l'agenda professionnel de l'époque. tout ça, ce sont des étapes, des courses, pardon, du début du 19e. Hein. On est fin 19e en l'occurrence en ce qui concerne Bordeaux-Paris, si j'ai bonne mémoire, et début 19e en ce qui concerne Paris-Tours. Et on a une troisième qui s'appelle Paris-Bruxelles, et qui partait de Paris, allait en direction d'Épernay, remontait par Reims, Rethel, et après remonter en Belgique pour tirer un tout petit peu plus à gauche vers Bruxelles. Mmh. C'est une course qui fait 425 km. Aujourd'hui, elle a une autre physionomie parce que des étapes des courses de 425 km, plus personne s'y intéresse. Mais voilà, ça fait partie aussi un peu des monuments. Que j'aimerais bien redécouvrir. En plus, et évidemment, Paris-Roubaix, que je ferai aussi cette année, que je roulerai cette année. J'aimerais beaucoup Bordeaux-Paris, Paris-Tours, Paris-Bruxelles, ça je pense que je les ferai, je suis quasiment sûr que je les ferai en pignon fixe. Et en revanche, Paris-Roubaix, ça je le ferai, je pense pas en pignon fixe. Et ensuite, Liège-Bastogne-Liège, ça je le ferai non plus, je le ferai pas en pignon fixe non plus, mais même si ça se fait, hein, ça se ferait, mais il faut être un peu plus près que je ne le serai, je pense, à ce moment-là.
Pourquoi Paris-Roubaix en dérailleur?
Alors d'abord parce que j'adore les pavés parce que j'ai déjà essayé de manger des pavés en pignon fixe et je me suis vautré gentiment sur les monts du Kemmelberg pour être précis. Ouais. Donc je me suis dit bon, je vais pas renouveler l'opération. Donc je vais essayer d'être un petit peu plus raisonnable cette fois-ci.
Est-ce que ça mériterait pas de s'acharner un petit peu et de, parce que tu es tombé une fois, c'est pas une raison pour abandonner?
Non, j'ai juste pas envie de me blesser, c'est plutôt ça.
D'accord.
Ouais, voilà, c'est assez bête et méchant. Après, peut-être que effectivement, avec un équipement différent de ce que j'avais, un développement différent de ce que j'avais, ça serait peut-être plus facile. Mais l'idée, c'est pas de. Là aussi, tu vois, dans la participation, l'idée, c'est pas de faire Paris-Roubaix cyclo, qui est organisé par ASO. Ouais. C'est de reprendre le parcours original de Paris-Roubaix. Le parcours original de Paris-Roubaix, il commençait à Chatou. Et il faisait 350-370 km, si j'ai bonne mémoire.
Ouais.
Quelque chose comme ça. Donc, tu vois, c'est pas exactement la même, c'est pas les mêmes distances, évidemment. Mmh. Mais, voilà, c'est le genre de choses qui est un petit peu différent. Actuellement, il y a le cycloclub de Roubaix, qui organise un Roubaix, cyclotouriste, qui fait 210-220 km, si ma mémoire est bonne, et qui part, je crois, de Saint-Quentin.
Ouais.
Ou quelque chose comme ça. Mais qui passe par, il y a aussi 55 km de pavé, hein, comme font les pros, qui n'est pas le cas non plus d'ASO.
D'accord. Quand tu dis le tracé originel, ça veut dire quoi? Ça veut dire que c'est la première édition? Ou alors tracé a été maintenu pendant plusieurs éditions?
Elle a été maintenue pendant plusieurs éditions. Il y a eu D'accord. quelques variations au tout début, mais assez peu finalement. Elle a été modifiée bien après en fait. Donc ça correspond plutôt au tracé des premières éditions.
D'accord. Quand tu dis premières éditions, ça s'étend sur combien d'années?
Alors là, je vais dire des bêtises, donc je vais pas. Au moins, je dirais au moins les 10 premières années. Mmh. Voire 15, ou peut-être, ouais, voire 15. Je mets ça avec beaucoup de précautions. Ouais. C'est à vérifier, j'ai pas la date et j'ai pas le nombre d'années exact.
Ouais, d'accord. Non, en fait, la question là où je veux en venir, c'est que j'ai toujours une, pas un souci, mais une petite réserve quant à la notion de origine, de parcours originel, de tradition, etc. Mmh. Dans le sens où si on se dit, bah tiens, on prend le parcours originel parce que c'est la première édition et on doit reproduire ça absolument, ça veut pas dire que parce que c'était la première édition, c'était une référence. Après, il a pu y avoir des évolutions qui améliorent le truc. Mais j'ai toujours un petit peu une petite réserve avec la notion de tradition et la, entre guillemets, la, parfois le refus de voir l'évolution et de vouloir se bloquer un peu dans le passé parce que il faut être fidèle à la tradition. Mais la tradition, ça veut rien dire.
Je fais pas ça dans une optique de rester purement et vraiment rigoureusement dans le tracé originel. Ouais. Je fais ça plus parce que ça me fait marrer et de voir comment aussi finalement, lorsque tu pars de Chatou et que tu vas à Saint-Quentin, je suis pas sûr que les routes que tu empruntes aujourd'hui soient exactement les mêmes que celles d'antan.
Bien sûr.
Et par conséquent, alors d'une part, t'es obligé parfois de modifier le parcours parce que tu peux pas le suivre, tu peux plus le suivre. Et d'autre part, parfois, ça sert absolument à rien de s'entêter à essayer de faire le parcours originel parce que sincèrement, passer par certains banlieues dont franchement qui n'ont ou certaines villes qui n'ont strictement aucun intérêt. Bon, je vois pas trop l'intérêt de se donner du mal pour faire pas faire des choses sympas, quoi.
Oui, oui, oui. Tu vas pas le faire en pignon fixe, manifestement. Et par contre, un tour de Lombardie, tu seras équipé comment ? Ça sera pignon fixe avec quand même une rotation de la roue pour avoir une roue libre, un frein quelque part, ou tu vas faire ça à la dure ?
Le tour de Lombardie, pour l'instant, je ne l'ai pas prévu cette année, même si j'aimerais beaucoup le faire. J'ai été un peu prudent sur les distances et les lieux auxquels j'allais, parce que je ne sais pas du tout comment la pandémie va évoluer. Ouais. Donc peut-être que je ferai évoluer mon programme au fur et à mesure, mais pour l'instant, je me suis fixé sur Paris-Tours. Je commencerai par Paris-Tours, ensuite Bordeaux-Paris, où je pense en fait Paris-Bruxelles, ensuite Bordeaux-Paris, et ensuite je me suis inscrit aussi à la réconciliation qui est organisée par Stéphane Gibon, qui part des plages du débarquement, donc de la Seconde Guerre mondiale, et qui va plein est pour traverser les plaines notamment de la Première Guerre mondiale. Donc ça a lieu en juin, et je me suis aussi inscrit pour accompagner mon pote Arnaud et mon pote Christophe, surtout avec qui je vais rouler, et Arnaud avec qui j'ai roulé le Tour de France et qui organise la RAF. On va faire le 500 de la RAF courant juillet, je ne sais plus, 23-24 juillet si j'ai bonne mémoire. Voilà.
D'accord.
Et un autre truc après que je ferai, mais qui sera un peu plus tard, qui sera le grand raid pyrénéen pour traverser les Pyrénées.
Ouais. Et ça sera en dérailleur.
Ça sera en dérailleur.
Ouais. Ouais. Bordeaux-Paris, tu vas le faire à l'ancienne avec la mobilette ou solo ?
Solo.
Solo.
Il y a deux copains qui m'ont dit qu'ils sont intéressés pour le faire. Moi, je ferai en pignon fixe et sans assistance, évidemment.
Ouais. Ton goût pour le pignon fixe, c'est pour rouler, si on peut dire, à l'ancienne, ou c'est un goût du minimalisme, ou un petit peu les deux ?
Non, ni l'un ni l'autre. Pour moi, c'est un goût de liberté. Il y a une simplicité, en fait.
Donc un petit peu de minimalisme quand même.
Non, parce que je cherchais pas le minimalisme. Tu vois, je cherchais vraiment la simplicité. Il y a du minimalisme parce qu'il n'y a pas de vitesse, mais c'est pas ça ce que je cherchais.
Non, mais c'est pas grave.
Ah non, mais je me sens très très bien avec ça.
J'espère.
J'ai l'impression que tu étais un peu dubitatif, c'est pour ça.
Ah non, moi je ne suis jamais dubitatif. Je te pose une question, tu m'apportes ta réponse et je vis très bien avec ça. Je pourrais poser la question à 10 personnes, j'aurais 10 réponses différentes et moi ça me va très très bien. Chacun a sa réponse et voit midi à sa porte.
Ok.
Alors, par contre, t'as quand même fait, parce que ça, on en a pas encore parlé, là, on parle de tes projets à venir, donc des épreuves déjà réalisées. Il me semble que t'as aussi fait les premières étapes du tour. Et que tu es épaté par, tu me le disais il y a quelques jours au téléphone, par le coup de pédale, par la force des mecs de l'époque, pour emmener à la fois les braquettes, tout ça en pignon fixe, et aussi se farcir les étapes de l'époque.
Ouais. Donc j'ai réalisé les deux premières étapes du Tour de France de 1910 en pignon fixe, à savoir Paris, c'est quoi Paris-Cambrai, si j'ai bonne mémoire. Alors normalement c'est Paris-Roubaix, sauf que je l'avais déjà fait un paquet de fois, donc on a modifié le parcours, on a fait le même nombre de kilomètres, mais j'ai légèrement modifié le parcours, tu vois. Paris-Cambrai et après Cambrai-Metz, en gros. Oui, c'est ça, plus Paris-Metz. Alors, premier truc, je me suis absolument régalé. J'ai adoré ça. Deuxième truc, c'est j'avais un braquet qui était trop important. Ça, c'était un peu ridicule, mais c'est comme ça qu'on apprend.
Tu avais combien ?
48-17. Donc, à la fin, autant te dire que dans les côtes ardennaises, quand ça commence à grimper à 7-8%, même sur 2 km, et que j'avais pas le niveau que j'ai aujourd'hui, voilà, ça commençait un peu à piquer.
Ouais.
Mais bon, et dans les descentes, évidemment, qui suivaient, c'était aussi assez rigolo. Mmh. Mais bon, voilà, c'est comme ça qu'on apprend, et puis c'est comme ça qu'on se fait des gens, tout simplement. Mais ça, c'était, ça a été une super expérience, et j'ai envie, évidemment, de continuer ce Tour de France. Là, j'en suis donc à Metz, et maintenant, il faut continuer pour descendre vers Belfort, et puis continuer un peu plus loin après vers Lyon, et ainsi de suite. Mais c'est à chaque fois des étapes de 300, 400 bornes en fonction. Et c'est prodigieux. Alors, en 1910, dans les différents ouvrages que j'ai pu lire, visiblement, ils avaient une roue libre, ils étaient plus en pignon fixe, ils étaient visiblement en roue libre, notamment parce qu'ils montaient des cols et descendaient des cols, c'était pas la première fois, mais ils prenaient les Pyrénées pour la première fois en 1910, et visiblement, ils alternaient effectivement, d'un côté, la roue libre, avec un pignon. Alors, les ratios, ils parlaient en ratio à l'époque et pas en développement, donc en nombre de mètres, mais ils parlaient pas du tout en nombre de dents.
Ouais.
Donc dans le bouquin de Jean Bobet sur Octave Lapize, qui a gagné le Tour de France 1910, tu peux lire différentes choses. Alors apparemment sur les étapes entre guillemets de plaine, ils étaient en 46-19, et sur les étapes de montagne, ils avaient un développement qui était plus petit. Alors, je ne sais pas si c'est du 46-22 ou 46-23 ou je ne sais pas combien. Ça ressemble à du 46-22. Après, à voir, vraiment, je n'ai pas fait les calculs pour l'instant. En revanche, ils étaient en roue libre, dans les descentes. Ça, c'est une certitude.
Ouais. Est-ce que...
Ce qui n'était pas forcément le cas sur les étapes précédentes. Hein.
Bah, c'est une petite évolution. Ils se sont rendus compte que c'est probablement un poil dangereux et que je suppose, parce que bon.
Ouais.
Est-ce que tu as regardé éventuellement sur Red Bull TV dernièrement un documentaire sur Patrick Sibeys qui a traversé?
Mais bien sûr.
C'est chiant. Oh. Ah, j'ai trouvé ça chiant. L'exploit physique est magnifique. Les paysages sont dingues, la performance. Mais le documentaire est chiant. Le mec est chiant. T'as l'impression qu'il est défoncé.
Ouais.
Je sais pas si t'as vu, il cligne pas des yeux. Il m'a fait presque peur. Je le trouvais super bizarre.
Ouais. Ouais. Et alors lui, pour le coup, il cherche le minimalisme, hein, clairement.
Ouais,
lui, il le dit ouvertement. Hein.
Le minimalisme avec une caméra de Red Bull et puis la camionnette qu'il suit en haut de chaque col. C'est vrai que c'est minimaliste.
Ouais. Ouais, ça c'est clair. En revanche, c'est assez impressionnant. Je veux dire, il a fait dernièrement, juste pour clarifier le truc. Donc, il a fait il y a 2-3 ans. L'étape des assassins. L'étape des assassins, c'est une étape du Tour de France 1910, qui passait donc par la première fois dans les Pyrénées, et qui consistait à partir, alors, je crois que c'est de Bagnères-de-Luchon et d'arriver à Bayonne, en passant par tous les cols les plus difficiles, ou quasiment les plus difficiles, pardon, des Pyrénées. Donc tu commences, alors je vais pas les faire dans l'ordre, je crois que c'est par le... Alors, tu dois avoir... le porté d'aspect, ensuite tu dois avoir Aubisque, ensuite tu dois avoir le col d'Aspin, le Tourmalet, Marie-Blanc, tu dois terminer par Osquiche et descendre direction Bayonne. Donc en gros, tu as 310 bornes et tu dois avoir je sais pas, 7000 mètres de dénivelé positif. À la louche, hein. Je n'ai pas fait les calculs, je ne connais pas l'état par cœur, mais globalement, c'est de l'ordre de grandeur. Quoi.
Ouais.
Et donc, il faut s'imaginer que tous ces petits gars-là roulaient, donc, ont mis le Octave Lapize qui gagne l'étape au sprint. Hein, au sprint.
En plus.
A mis, si j'ai bonne mémoire, entre 14 et 15 heures. Ça me donne une idée de la vélocité et de la force physique des gars de l'époque. Je suis impressionné vraiment. Hein. Donc, Patrick Sibeys, puisque c'était le début du sujet, a réalisé cette étape-là en pignon fixe, brakeless, c'est-à-dire sans frein, contrairement à 1910. Mmh. Et avec un seul développement, il était en 47-17, si ma mémoire est bonne.
Putain.
47-17. Donc, c'est beaucoup, quoi. C'est vraiment du gros braqué.
Ouais.
Pour cette étape-là, pour moi, en ce qui me concerne, peut-être que pour d'aucuns, ça paraît complètement faisable, tant mieux. Voilà, mais c'était sa première, Première escapade. Et la deuxième escapade qui s'est faite donc cette année dans les Alpes suisses. Alors, je ne connais pas les noms de tous les cols. Globalement, il a fait une étape assez similaire avec 310 bornes et 6000, 7000, 8000 mètres de dénivelé positif, ouais, à escalader les cols les plus difficiles les uns après les autres. Il a mis le pied à terre, pas pour monter, mais pour descendre, parce que les conditions au début, notamment, étaient assez exécrables. Et il a mis son vélo dans le van parce qu'il trouvait ça trop dangereux. Il était encore aussi en bas classe. Un fou.
Ouais. Et sur les Pyrénées, il a mis combien sur l'étape des Assassins?
Je crois qu'il a mis un tout petit peu moins de temps que Octave Lapisse, mais pas grand chose.
Ça permet quand même de relativiser un petit peu la performance, parce qu'il me semble que c'est un ex-pro, qu'il avait donc une infrastructure autour de lui. On l'a déjà dit, il avait un van, c'était pas non plus, ouais, c'était pas non plus l'autonomie, l'aventure totale.
Non, pas du tout.
Sans dénigrer ou minimiser, c'est ouais, il y avait caméra, van, c'est pas, ouais.
Ouais, bref. Ouais. Il a une assistance, il avait une assistance et clairement il avait pas besoin de se ravitailler dans les boulangeries.
Oui. Bah oui, donc bon. Et puis Octave Lapisse, il n'y avait pas l'infrastructure pour les pros qu'il y a aujourd'hui.
Non, absolument.
Je suppose qu'il avait personne en haut d'école pour lui filer une roue, pour lui filer de la bouffe.
C'est clair, ouais. Juste pour revenir un instant sur les capacités physiques et ce qui a été produit à l'époque, j'en suis, mais sincèrement, à chaque fois que j'ouvre un bouquin là-dessus, j'en suis absolument bouche bée. En 46-19, honnêtement, le braquet n'est pas énorme. En revanche, c'est la vélocité que ça demande, c'est prodigieux. C'est là où c'est en fait, ils ont pigé, ils ont compris qu'effectivement il fallait tourner les jambes et pas forcer.
Mais alors, ça pose quand même un petit peu de questions, parce qu'aujourd'hui on voit que depuis les années 93, la vitesse du tour ne fait qu'augmenter. Et pourtant, ouais, là, t'es en train de me rapporter des exploits physiques dont, a priori, les mecs d'aujourd'hui ne seraient peut-être plus capables, avec des routes nickel, des vélos de dingue et un arsenal, on va dire, un soutien médical à la pointe.
Ouais. Mais, en fait, dans plusieurs bouquins, on trouve ça. Il s'avère qu'en l'occurrence, Octave Lapisse, il a fait... Il faisait Paris-Reims à 32 de moyenne en single speed, donc ça, voilà, il faut quand même tourner les jambes. Ouais. Certains pros, aucun doute sur le fait que des pros et même des coureurs d'élite seraient capables de faire ça, et même des divisions en dessous, j'en ai absolument aucune idée. Je j'ai pas de référence dans ce domaine-là, donc je cherche pas à raconter de bêtises, mais je veux dire. Avec leur vélo faisait 11-12 kilos, ils n'avaient pas l'entraînement et ainsi de suite aujourd'hui. Moi je suis assez admiratif. Après peut-être que je suis complètement naïf et voilà.
Naïf à quel niveau?
Peut-être que c'est tout à fait normal, tu vois. Peut-être que c'est complètement normal que les mecs soient capables à rouler à 32 de moyenne. Moi j'ai pas ces capacités physiques-là en tout cas.
Ah oui, non mais ça faire une sortie. Je me souviens d'une story de Julien Alaphilippe, il avait, je sais plus, 230 kilomètres au compteur, et puis avec son frère, et puis tu voyais la moyenne, je sais plus, entre 33 et 34, ça c'est pas un problème. Pour des pros, c'est une moyenne, je veux dire, quand tu vois les moyennes qu'ils font sur le tour et sur les épreuves, c'est normal qu'à l'entraînement, ça aille beaucoup plus vite. Nous, quand on fait 32, 32,5, on est content. Bon, pour un pro, c'est une allure normale, mais ça, c'est normal. C'est une question d'échelle, de capacité physique et de vitesse des épreuves. Et il y a quelques jours, je regardais les 6 jours de Gand, parce que j'ai un autre scoop pour toi, sur l'épreuve avec, je crois que c'est Elia Viviani qui gagne, c'était à 57 de moyenne.
Ouais.
Mais sur Vélodrome.
Ouais, exactement.
Mais n'empêche que, tu vois, tu parles de tournage de pattes. Là, il fallait les tourner parce que c'est derrière Derny, c'est un spectacle en Belgique avec tout ce que ça comporte de ferveur, de tout ce que tu veux. 57 de moyenne, donc. Donc, tu veux un scoop?
Ouais. Deuxième de la journée.
Ah ouais, non, mais là, c'est ouf. En plus, il est que 10h56 du mat. Attention, là, ça va être une journée de bourrin. Là, j'ai eu l'idée la semaine dernière, parce qu'en fait, l'idée du podcast depuis un an et demi, c'était d'amener à tout prix des contenus utiles. Moi, ça a été fait à l'origine pour combler mes lacunes sur le gravel après une grosse déconvenue où j'ai fait l'étalage de mon incompétence en matière de tout terrain. Donc là, je me suis dit, ça peut pas durer, il faut que je fasse quelque chose. Donc, 85 épisodes plus tard, bah, je suis moins nul qu'avant, mais bon, il va quand même falloir encore bosser un petit peu pour être bien. Et je me suis dit, ce qui serait bien, c'est d'amener des contenus thématiques extrêmement raccourcis avec un expert, parce que je l'ai fait, tu vois, avec Sofiane, avec d'autres, avec Stéphane. Ouais. C'est une expérience personnelle qui peut être déclinée vers d'autres pratiquants, mais ça reste une expérience personnelle. Et là, ce que j'aimerais, c'est créer des mini-épisodes vraiment avec un expert reconnu en la matière. Et donc, expert pignon fixe, Jean-François Guy Borel. Je dois l'appeler dans la journée. Et à ton sifflement, je vois que tu sais qui c'est.
Ouais, ouais.
Bon, ça a l'air d'être un mec super cool, donc ouais. Tu sais, il m'a juste fallu lui écrire sur Messenger en lui disant salut, je veux faire un épisode avec toi, et en gros 5 minutes après il m'a dit bah tiens, ça c'est mon téléphone, appelle-moi. Voilà, c'était pas bien compliqué, le mec est cool, donc c'était pas bien difficile.
Ouais très.
Donc là, ça va être... C'est pour ça que je me suis documenté sur les 6 jours de gants, parce qu'il avait partagé un truc là-dessus ces derniers jours, et je voulais savoir à quoi ça ressemblait, étant totalement profane en matière de piste. Donc, et je te donne rendez-vous sur le vélodrome de Saint-Quentin. Dès que c'est rouvert, je pense que je vais y aller régulièrement, donc ça sera l'occasion d'y aller ensemble.
Ouais. Ah bah avec plaisir.
Ouais.
Avec grand plaisir.
Et justement, toi, en parlant de justement du pignon fixe, avec ton expérience du dérailleur, tu ressens quoi comme bienfait? Est-ce que l'usage du pignon fixe, quand tu prépares un truc avec dérailleur, est vraiment une arme fatale? Ou est-ce que tu ne ressens pas tant de différence et tu pourrais arriver au même niveau de force, au même niveau de forme, on va pas dire de performance, mais de forme et d'exploitation de tes capacités avec une préparation sur un dérailleur?
J'ai pas de fait scientifique. En revanche, ce que je peux te dire, c'est que le pignon fixe m'a fait beaucoup de bien, notamment en termes de force et de vélocité. C'est-à-dire que lorsque tu commences à grimper même des talus, des gros talus, tu vois, qui font 800 mètres, 1 km, ne serait-ce qu'à 3-4%, et que tu es en 48-17, bah, tu travailles un peu quand même, quoi. Donc, en ce qui me concerne, alors après, il faut chacun son développement. Tu vois, Sofiane, en l'occurrence, il est en 48-15. Je l'ai vu grimper des trucs en 48-15, mais j'ai en roulant avec lui, que jamais j'aurais été capable de faire, si tu veux. Donc voilà, c'est pas... chacun son développement, chacun sa force physique. Mais moi, clairement, oui, le pignon fixe m'aide énormément en termes de vélocité et de coup de pédale, surtout. Plus que de vélocité, c'est le coup de pédale. Et de... ouais, de force. Ouais, carrément. Dès que tu vas... tu vois, les BRM pour Paris-Brest-Paris, j'ai fait tous les BRM, sauf le 400, en pignon fixe. Et ça montait, ça descendait. J'ai pris du vent dans la tronche pour faire le BRM 600 pendant 250 bornes ou 300 bornes. Ça te fait bosser, quoi. Ça te fait bosser. Et c'est... moi, je trouve ça hyper... après, moi j'aime beaucoup, après, mais je pense que j'ai pris une partie de ma force avec le pignon fixe, oui. Ça fait partie des petits plus.
Ça fait partie des choses, tu sais, c'est comme la route. C'est comme sur la route, il faut un petit peu de piquant. Donc, si je réponds comme un benêt, ah oui, très bien, super intéressant, magnifique. Alors que là, tu vois, je te raccroche au nez, je te rappelle
c'est
après.
Clair.
Ça relance le rythme.
C'est vachement plus sympa, je trouve.
Ah bah en plus, tu vois, c'est un petit peu une attaque, c'est comme si je te faisais la pancarte en te disant tiens, mange-toi celle-là et essaye de répondre.
Ouais, exactement.
Et quand tu dis ça fait bosser le coup de pédale, est-ce que tu peux développer, parce qu'on vante les mérites de plein de trucs, tu vois, du pignon fixe, de plein de méthodes d'entraînement, du travail de la force avec ou sans dérailleur, peu importe. Mais et on parle de coup de pédale, on parle de fluidité, mais ça veut dire quoi en fait?
Est-ce que ça veut dire
pour être précis en fait, parce que ce que je déplore, c'est que quand on parle de ces choses-là, on manque de précision et on reste sur des grandes expressions sans rentrer dans le détail.
En fait,
si on a quelque chose à vendre derrière, les explications viennent quand t'as payé.
Ouais. En pignon fixe, donc ta chaîne est en prise en permanence entre ta roue arrière, donc ton pignon arrière et ton plateau avant. Lorsqu'elle est en prise, ça veut dire qu'elle tourne en permanence. C'est-à-dire que quand tu as de la vitesse et que tu arrêtes d'appliquer de la force sur tes pédales, comme tu as de la vitesse et de l'inertie, ton vélo continue à avancer. De la même manière que lorsque tu es en descente avec un dérailleur et une roue libre, ton vélo continue à avancer, sauf que tes jambes ne tournent pas. Sauf que là, avec un pignon fixe, tes jambes tournent parce que tu es en prise en permanence. C'est-à-dire que ta chaîne est prise dans les maillons et continue à tourner puisque tu n'as pas de roue libre. La roue libre sépare le pignon du mouvement de rotation de ta roue. Là, il n'y en a pas de séparation. Donc, ton pignon tourne en même temps que ta roue. Comme elle tourne en même temps que ta roue et que ta chaîne est dessus et elle est reliée à ton plateau à l'avant, tes manivelles tournent aussi. Et comme tes manivelles tournent aussi, tu fais deux choses. C'est-à-dire que tu appliques de la puissance pour avancer et en même temps, tu cherches à perpétuer le mouvement, la rotation de ta chaîne. C'est-à-dire que sans appuyer beaucoup plus, en fait, tu vas juste chercher à entraîner, à continuer à entraîner ta chaîne. Je ne sais pas si je suis clair.
Bah si.
Tant mieux. Donc, non, donc c'est ce mouvement-là en fait qui te permet de travailler ta technique de pédalage et aussi, et c'est là où c'est important, d'être extrêmement bien posé sur son vélo, notamment au niveau de ta hauteur de selle et ton recul de selle, parce que tu peux être en surextension, sous-extension lorsque tu te blesses et ton pied se déroule pas complètement naturellement sur la pédale. Et c'est là où c'est hyper intéressant.
Alors. Je reviens un petit peu à ton parcours de psychothérapie, etc. Est-ce que dans les descentes dans les parties où vraiment le vélo est emmené par l'inertie est-ce qu'il faut contraindre le mouvement ou est-ce qu'au contraire il faut accompagner au maximum et travailler la fluidité de notamment de la cheville et je vais te le dire tout de suite, travailler le lâcher prise dans le mouvement pour acquérir cette fluidité. Est-ce que tu as pu éventuellement ressentir un lien dans le côté où dans le sens où avec un dérailleur on pourrait appeler ça du lâcher prise aussi, mais au bout d'un moment on n'avance plus, là on est obligé d'avancer, mais pour ne pas se blesser, pour ne pas s'exploser les genoux, on est obligé d'apprendre à pédaler avec fluidité et de trouver les mécaniques dans les chevilles notamment pour accompagner le mouvement sans se faire mal.
Oui, bien sûr, tu as tout à fait raison, on cherche toujours à contrôler et ainsi de suite. Là, c'est exactement l'inverse, c'est complètement du lâcher prise. Et pas qu'au niveau des chevilles et des genoux, mais aussi au niveau du bassin.
Ouais.
Parce que forcément, ton fémur bouge à l'intérieur de ton bassin et l'objectif, c'est de libérer au maximum les tensions aussi qui sont à cet endroit-là. Donc évidemment, lorsque plus tu es posé et plus tu es bien posé sur ton vélo et mieux tu te sens, plus ta fluidité, donc plus les angles aussi entre notamment ton bassin, enfin ton buste, pardon, et ton fémur et ton tibia sont naturels et permettent une communication, une circulation de l'information dans ton corps naturel, plus derrière ça, tu arrives véritablement à enchaîner cette rotation-là et avoir des cadences qui sont supérieures à 90-100 tours par minute, ouais, bien sûr.
J'ai l'impression que maintenant je monte davantage mes genoux. Je pense que j'ai déverrouillé un petit peu les chevilles, notamment dans la partie haute, et mes genoux montent davantage. Et mon pote Johan a une expression qui est pédaler aligné. Et j'ai l'impression que le pignon fixe m'a réaligné en fait dans la mesure où mes genoux montent plus haut. Et également le dessous du pied va davantage appuyer et tirer ensuite.
Ouais. Tu parles en déraillé là ou tu parles en fixe?
En dérailleur, j'ai pris beaucoup de mauvaises habitudes ces dernières années, notamment les années où on travaillait, on était collègues. sans se connaître. Je roulais à la montagne et j'étais complètement décalé. J'appuyais beaucoup plus avec une jambe qu'avec l'autre. Et aujourd'hui, une grande partie de mes efforts se concentrent à rééquilibrer. Et dans ce sens-là, le pignon fixe est une aide presque magique.
Ouais.
Presque miraculeuse.
Ouais, vraiment. Mais c'est intéressant ce que tu disais aussi sur le fait de rééquilibrer. Au début, moi, je cherchais complètement à compenser mon manque de technique, de savoir-faire, simplement sur un vélo, d'endurance parfois, de tourner les jambes par la force, tout simplement. Donc, j'ai eu une grosse époque où j'essayais un peu de tirer de la bracasse pour essayer de compenser. Et en fait, je m'épuisais plus que tout. Et lorsque tu te rends compte de ça, tu te dis, bon, je me suis dit à ce moment-là, bon, ok, très bien, il faut que je m'y prenne différemment. Mais c'est très dur, je trouve, de revenir sur des habitudes qui ont été prises. Et aussi en pignon fixe, ça aussi a été l'inconvénient, entre guillemets, pour moi, du pignon fixe. C'est-à-dire que j'ai été habitué à avoir, à tirer gros. Donc, ce qui fait que lorsque je suis revenu sur un vélo déraillé, je tirais gros, mais je n'apprenais pas du tout à tourner les jambes. Et donc, j'ai eu besoin de refaire des exos derrière ça pour apprendre à tourner les jambes et avoir une fréquence de pédalage en fait plus régulière et plus haute surtout.
Alors peut-être qu'on n'a pas les mêmes mots pour l'exprimer, je peux éventuellement mettre ça sur le compte de ton manque d'ancienneté dans le vélo, dans le sens où tu n'as pas fait vraiment de pure course sur route, et en course sur route on parle de rythme. Et ce que j'ai pu, quand j'ai fait mes recherches sur le pignon fixe, j'étais tombé notamment sur le post, sur un message d'un triathlète qui disait, ouais, j'ai fait du pignon fixe, j'étais véloce, mais j'avais aucune force. Bah oui, tu m'étonnes, il avait 38-18. Donc c'était carrément, tu m'étonnes qu'il tournait les pattes. Et j'ai l'impression qu'il y a une petite, il y a une petite confusion entre tourner les jambes et rouler de manière puissante. On sait que la puissance, c'est la multiplication de la force par la fréquence. Et si on ne travaille que la fréquence, donc avec un braquet minime, effectivement on va tourner les cannes, mais quand on va remettre un petit peu de braquet, on va être collé. Et le pignon fixe, si on choisit bien son braquet, on va trouver vraiment cette combinaison entre vélocité et force, donc on va travailler la puissance, et si on veut avancer, on va être obligé vraiment de mettre du rythme et pas juste de la vélocité. On va devoir appliquer quand même pas mal de force.
Absolument.
Et pas juste de la vélocité, donc de quasiment tourner dans le vide. Et autre bienfait, quand on revient de ce que j'ai pu noter, quand on revient sur un vélo à dérailleur, donc avec en l'occurrence pour moi un double plateau sur mon gravel, c'est que avoir un petit plateau, moi j'ai un 40-16, on n'a pas le même déploiement de force que quand j'avais un 53 sur mon vélo de route. À développement égal en mètres, entre un petit plateau et un grand plateau, on va aller beaucoup plus vite avec un 53 évidemment qu'avec un 44 ou un 42.
Et puis aussi, ça dépend du terrain. C'est-à-dire que j'avais lu un article d'un pro qui bossait pour je ne sais plus quelle équipe et qui est de mémoire Picard, je ne sais plus lequel c'est, et qui disait oui, moi l'hiver, je m'entraîne avant entier en pignon fixe en 52-16. Ça me permet de bosser la force dans les côtes et la vélocité sur le plat.
Bon, 52-16 en vélocité. Un Picard qui a gagné plusieurs fois le Tour des Flandres, Paris-Roubaix et 16 fois le Tour de France avec un entraînement pareil, je cherche et ça me dit rien.
Mais le type s'entraînait comme ça, tu vois. Il y a pas de. C'est un ancien pro qui fait partie d'une équipe pro, enfin qui faisait partie d'une équipe pro. Je sais plus dans quel magazine j'avais lu ça.
Ah oui.
Mais tu vois, et c'était sa manière de s'entraîner parce qu'il trouvait des avantages aussi. Mais encore une fois, c'est une question vraiment d'équilibre entre ta force et tes capacités physiques à un instant T, le terrain sur lequel tu vas rouler et ce que tu veux bosser. Donc effectivement, il y a un triathlète qui avait gagné, je crois, l'Ambraman, ou qui avait fait un super temps à l'Ambraman en pignon fixe en 48-15 ou 48-17, tu vois, un truc comme ça. Bon, chacun son truc.
Oui, il y en a aussi, là tu parles de triathlon et d'Ironman, j'étais tombé sur un également qui a fait un excellent temps sur l'un en faisant le vélo exclusivement sur Home Trainer. Bon, cela dit, avec les Home Trainer connectés et un bon coup de Zwift, effectivement, quand tu reviens sur la route, c'est plus le temps des Home Trainer, tu sais, triangulaires ou alors des rouleaux.
C'est clair.
Où là, tu bosses, c'est comme tu fais... Mais un coup de Zwift bien fait, c'est sûr que...
C'est hyper efficace.
Pour un mec qui a une contrainte horaire et qui peut, par exemple, ne rouler que la nuit, c'est radical. Ça marche hyper bien. Ça marche hyper
bien. Mais bien sûr. Ouais. Mais ça, c'est Patrick Gilles qui a créé notamment les 7 majeurs et qui s'est entraîné toute cette saison quasiment exclusivement sur Home Trainer. Ouais. Et il a fait une super saison. Il est ravi, tu vois, de son statut. Il a roulé beaucoup, beaucoup, beaucoup moins au-delà du confinement que les années précédentes. Donc, il a énormément de bienfaits. Encore une fois, le Home Trainer, c'est un super outil pour faire des séances extrêmement spécifiques, que ce soit pour travailler sa vélocité, sa puissance, sa force, sa FTP ou dans son endurance. Il y a des super exercices. Donc, il y a encore une fois, c'est parfois assez rageant. Moi, ça fait 3 semaines que j'ai pas foutu un pied sur un vélo. Donc voilà. Mais ce sont des super exercices. Oui.
Ouais. Ouais, ce sont de super outils. On vit vraiment une super époque pour ça. Et je suis vraiment ravi. Est-ce que tu as déjà expérimenté, hier, je suis allé rouler avec mon pote, donc et on a commencé à discuter de ça. Est-ce que tu vas expérimenter ou est-ce que tu as expérimenté par le passé une sortie avec plusieurs vélos? J'ai cru que tu m'en as parlé sur un BRM, ou alors j'ai mal compris, de faire une sortie, mais de changer de vélo à un moment donné pour travailler différemment, en fait.
Non, ça j'ai jamais fait. J'ai les BRM, à part le 400, j'ai fait le BRM, donc 200, 300, 600 en pignon fixe et le 400 en déraillé.
D'accord.
Mais j'ai jamais fait alterner sur un parcours deux vélos différents.
Ça va être mon petit jouet de l'année. Je vais expérimenter ça, de faire par exemple une heure et demie ou deux heures et de revenir à la maison au bout de 2 heures, de changer de vélo et de repartir pour casser un petit peu la routine déjà. Puis pour essayer, parce que si on n'essaye pas, on saura pas. Donc peut-être que c'est complètement con. Mais si je le fais pas, c'est une manière de renouveler, de s'amuser, parce qu'au bout du compte, c'est que du vélo, c'est pas grave.
Ça c'est clair, absolument.
Dis-moi, oui, vas-y, pardon.
Non, vas-y, je t'en prie.
Non, vas-y, t'allais dire un truc, je t'écoute.
Oui, mais je sais plus ce que c'est, alors vas-y.
Ça devait être capital.
Oui.
Est-ce que j'ai une chance de te voir un petit peu en tout terrain, ou est-ce que tu es scotché au goudron, si on peut dire?
Non, au contraire, je vais rouler en gravel dans pas très très longtemps, en fait.
Ah bon? Toi aussi, t'as des scoops à me balancer?
Ouais, je vais faire un test, notamment pour un vélo, le test du 3T. Donc l'Exploro Race. Et tout ça pour Bike Café, tu vois.
T'as gâché l'ambiance là. Désolé.
Et en fait, c'est ce qui m'intéresse. Il y a 2-3 trucs en gravel qui m'intéressent énormément. Il y a la Scotland Highland 500, qui est en fait un tour en Écosse de 500 miles, qui part dans des contrées absolument extraordinaires. Il y a la Torino-Nice Rally qui me plairait énormément. Je vais pas faire ça cette année, mais ça fait partie des trucs que j'ai en tête.
Surtout pour la Highland Trail, il faudra que tu justifies d'un petit peu d'expérience en tout terrain avant, parce que il y a pas d'inscription, c'est une sélection et il faut justifier d'une expérience. Et j'espère également que tu aimes la marche à pied, parce que ça se fait essentiellement à pied, la Highland Trail.
Alors peut-être que je me suis trompé dans le nom.
Ouais.
Alors attends, je vais essayer de retrouver ça en attendant, juste une seconde. Non, c'est North Trail 500 en Écosse.
D'accord.
Et c'est du gravel.
Ok. D'accord.
C'est ça que je voudrais faire.
Tu peux m'envoyer le lien par Messenger. Je vais l'ajouter au calendrier. Parce qu'effectivement, ça, c'est top. Et puis l'Écosse,
Ça me prend plein les yeux.
Génial.
Alors, je sais pas s'il y a une. C'est pas une course, c'est une rando permanente.
Ouais.
Mais ça a l'air absolument somptueux.
Ouais. Ah ouais, bah Torino, Turin-Nice aussi, c'est pas une course, et c'est très bien aussi, donc
Ouais, ouais, absolument. Et puis, il y a aussi celle de, je crois que c'est Rémi qui l'organise.
Ouais.
Rémi Lequin, ouais. La North Trail 1200.
Ouais. Qui 1200, me dit pas mal. Tiens, donc il a augmenté la distance, le loulou.
Ou je me trompe peut-être, mais il me semble qu'il en a fait une longue, oui.
Ouais, c'était entre 400 et 600. Je crois que c'était plus près des 400. C'est une super épreuve, en tout cas. Et fidèle à son esprit. Donc, tiens, d'ailleurs, il faudrait que je l'ajoute. Je ne l'ai pas fait. Je vais aller l'ajouter de ce pas. Jeanlin, dernière question. Quand est-ce qu'on roule ensemble?
Ah bah écoute, moi je suis confiné en Normandie, je reviens sur Paris courant début décembre, là, la semaine prochaine.
Ouais.
Si t'es sur Paris, avec plaisir, dès qu'on peut rouler.
Je ne suis pas loin et j'ai déjà prévu d'aller faire du VTT dans les Vaux-de-Cernay vers Rambouillet, tout ça avec
Très bien.
Avec Stéphane Ouaja, parce qu'il va préparer il va préparer l'Atlas Mountain Race avec son nouveau VTT super top de la mort qui va trop vite.
Ouais.
Donc on va aller rouler ensemble pour se marrer un petit peu.
Ah bah avec plaisir, fais-moi signe fin décembre.
Ouais, bah alors fin décembre, je te promets rien, mais en tout cas, on va essayer quand même de faire un truc ensemble.
Ouais.
Je vais te laisser pour la minute de solitude. En attendant, merci pour le temps consacré. Bravo pour ce que tu as réalisé et surtout bonne chance pour ce que tu vas réaliser. Et merci pour les indications sur le jeûne et sur le chamanisme et tout ça. C'est toujours bien d'avoir des pas d'être convaincu ou de chercher à être convaincu à tout prix, mais de faire germer des idées pour aller regarder. Après, on aime, on n'aime pas, mais en tout cas d'aller se documenter. Mmh. Et ça, j'aime beaucoup découvrir de nouvelles choses. Donc merci pour ça. Je te laisse pour ta minute de solitude. À très bientôt. Et puis voilà, dès que tu as fini de dire ce que tu as à dire, et ben tu raccroches et puis voilà.
Ça marche. Un grand merci à toi et puis vraiment c'est toutes ces initiatives autour du vélo et Spotzel en fait partie sont super. C'est un très bon moment pour donner envie juste de parfois simplement de prendre l'aventure, et de l'aventure parfois commence en bas de chez soi, quelle que soit la distance qu'on réalise. Donc un grand merci aussi à toi pour mettre tout ça en place.
Ah putain, ça y est, je vais rougir, c'est malin.
Ouais.
pour compléter un peu, l'idée, c'est pas forcément de partir à l'aventure, mais au moins d'inciter les gens à déjà monter sur leur vélo et à pas juste, tiens, c'est le moment où je vais tailler un petit peu, parce que toi, t'as été très diplomate, mais moi, je vais me permettre de tailler un petit peu et d'inciter les gens à sortir de chez eux un petit peu plus, à faire un petit peu plus, à prendre un petit peu plus de risques et à arrêter de passer leur temps sur les groupes Facebook, à se pignoler sur les dimensions de pneus et à quel vélo il faut, savoir quel vélo idéal pour faire ça, les sacoches parfaites, le pneu nickel. À un moment donné, il faut juste sortir et puis se rendre compte qu'éventuellement, on s'est trompé et que le vélo parfait, le pneu parfait, la situation parfaite n'existe pas. Et toi, tu voulais embrasser le vide. Et ben moi, j'encourage les gens à embrasser l'inconnu.
Oui.
Et à embrasser l'incertitude. Et à partir de là, qu'est-ce qu'on fait avec cette incertitude? Parce que vouloir tout blinder, le vélo parfait, les pneus parfaits, les sacoches nickel, ça n'existe pas, et il y a toujours un truc qui va partir en couille, si on peut dire.
Et
l'aventure, elle commence justement quand ton matériel te lâche. Et que qu'est-ce que tu fais quand tout n'est pas parfait? Tu rentres chez toi, t'appelles ta mère et tu te plains auprès de ta femme? Non, tu continues et on fait avec ce qu'on a. Donc le vide, l'inconnu, l'incertitude, c'est quelque chose de stimulant. Et on dit partir à l'aventure en bas de chez soi, c'est pareil, c'est très diplomate comme formule, mais qu'est-ce qu'on fait quand rien ne fonctionne comme prévu? Et voilà, et c'est, si je devais faire passer un message, ça serait ça: arrêtez d'aller sur Facebook, arrêtez d'écouter des podcasts, arrêtez de m'écouter, arrêtez d'écouter mes conneries et montez sur votre vélo et partez, parce que c'est bien mieux de découvrir ça que d'écouter des mecs parler dans un micro. Voilà. Donc là, je viens de perdre 90% de mon dossier. Et c'est cool. C'est cool. Et je pourrais même donner mon adresse et dire, venez rouler à la maison, venez, on se retrouve au garage, et puis on va rouler ensemble, et arrêtez d'écouter mes conneries, arrêtez d'écouter Arnaud et tous les autres, et allons rouler ensemble, et ça sera bien plus rigolo. Voilà.
Ça, c'est sûr que ça sera rigolo. Et après, ce qui est important aussi, je trouve, c'est que oui, le vide, oui, l'inconnu, oui, la sensation de l'instant présent parce que tu découvres quelque chose de nouveau. Et c'est surtout, qu'est-ce que tu en apprends? Qu'est-ce que tu en fais après? Qu'est-ce que tu changes dans ce que tu vis, dans la manière dont tu vis tous les jours, qui va te donner envie de faire les choses autrement? Parce que c'est, encore une fois, tout le monde en parle de l'incertitude, tout le monde en parle de la créativité dans le vide ou dans le rien et ainsi de suite. Mais et demain, t'en fais quoi de tout ça ?
Oui, parce que tout ça, c'est des jolies formules. Tu te rappelles, au début du premier confinement, on parlait du monde d'avant, de machin, de tout ça. Tout le monde avait l'air d'être prêt à changer le monde. Quand, il y a 4-5 ans, quand Trump a été élu, il y avait une explosion du nombre de requêtes pour déménager au Canada. Et aujourd'hui, ils sont où, tous les gens qui voulaient déménager et après le confinement, tous les gens qui voulaient changer de vie. Alors, je sais, j'ai conscience que c'est pas facile et que c'est toujours plus facile de dire « Ouais, j'aimerais changer de vie » et c'est très difficile. Tout le monde n'a pas la possibilité et tout le monde n'en a pas la chance. Mais sur des trucs beaucoup plus accessibles, comme sortir de sa zone de confort. Tu vois, partir rouler à jeun, faire un jeûne, rouler de nuit, c'est des trucs qui sont beaucoup plus proches de nos pratiques quotidiennes. Et pourtant, il y a plein de...
Parfois, d'apprentissage à en faire.
Ouais, mais surtout, il y a plein de... Il y a plein de réticences et de peurs par rapport à ça. Moi, je viens de la route. Et c'est pas des trucs qu'on fait, tu vois. Bon, rouler à jeun, on le fait surtout dans la course à pied. Mais rouler de nuit, mais c'est une hérésie. Et il y a plein de gens qui sont encore aujourd'hui qui aimeraient se lancer en bikepacking, en gravel long, et qui ont encore des réticences par rapport à partir la nuit, à rouler la nuit. Et j'ai pas encore trouvé la solution et les contenus pour les inciter à le faire, alors que partir à 22h quand les enfants sont couchés, c'est le délire, c'est trop bien. Partir à 5h, 5h30 et revenir à 7h, 7h30 ou 8h quand les enfants se lèvent, c'est génial, c'est génial. Rouler à jeun, c'est le délire, c'est super. En plus, c'est hyper efficace. Donc, et c'est, j'ai pas encore trouvé la solution, tu vois, pour être tout à fait honnête. J'ai pas encore trouvé les contenus pour déconstruire ces trucs-là, pour déconstruire ces peurs, ces petites réticences et que les gens se disent. Bah en fait c'est rien du tout et le seul truc que j'ai trouvé maintenant c'est de dire bah c'est rien du tout, il faut foncer. Mais quand t'as peur, moi j'ai peur des prises de sang, on peut me dire mais non c'est rien du tout, les fois où ça m'est arrivé j'ai failli, enfin je deviens agressif tu vois. Et dire mais non c'est rien, enfin c'est pas une aide, c'est ça renforce juste à quasiment la peur du truc ou l'appréhension qu'on peut en avoir. Donc j'ai pas encore trouvé en fait, donc c'est très gentil de me dire bravo pour ce que tu fais, mais il reste tellement à faire et tellement de choses à créer, de choses à dire et de trouver la manière de le dire pour mettre plus de gens dans nos dans les chemins la nuit, dans les chemins loin de chez soi, que ouais c'est bien, c'est, je suis content, c'est gentil, mais il reste tellement à faire que
bien sûr
je préfère baisser la tête humblement.
Mais c'est pour moi c'est pas tu peux pas changer les gens, c'est toi tu peux leur donner l'envie d'eux mais tu peux pas les forcer à.
Non mais il faut déjà trouver le déclic pour donner envie
tu mais vois, c'est ce que tu fais au travers de tes podcasts.
Bah oui mais pas, tu vois, toi qui es dans la psychothérapie tu sais qu'un élément déclencheur ça s'appelle un apax.
Oui mais
il faut trouver cet élément déclencheur qui te dit c'est exactement ça que je veux faire.
Ouais, mais dans tout ce que tu évoques et dans tous les interviews que tu réalises, il y a des éléments déclencheurs pour les personnes qui écoutent.
Alors, je peux pas évidemment savoir les éléments déclencheurs de chacun. Ça, c'est
exactement. Donc, c'est justement, mais laisse faire. Tu vois, là, tu cherches à prendre le contrôle sur, mais laisse faire. Au contraire, tes auditeurs, ils t'inquiètent pas, eux trouveront ce qu'ils ont. Qui va leur permettre de faire un déclencheur pour eux. Tu sais, parfois, c'est juste un post à la con sur un réseau social qui va permettre à quelqu'un de faire les choses autrement. Parfois, c'est juste une rencontre. Moi, je vais te donner un exemple très concret. En janvier 2000 de cette année, je suis parti m'entraîner du côté de Nice. Bon, ok, très bien. Dans la montée du col du Turini, côté Sospel, il y a un tout petit patelin qui s'appelle je ne sais plus comment, et dans un des virages du tout petit patelin en question, il y a un bistrot. Il n'y en a pas deux, il y en a un. Donc ça, t'es sûr de pas te planter. Je suis rentré dans le bistrot et je voulais me prendre un café. Je rentre dans le café, il y avait une grande salle, il y avait un piano, une guitare, une collection de poupées de cire, si j'ai bonne mémoire, un grand zinc, mais alors quand je dis grand, c'est-à-dire qu'il faisait au moins 10 ou 15 mètres de long, avec des photos derrière et plein de choses. Et t'avais une chaleur amicale qui en ressortait lorsque tu rentrais là-dedans, t'en avais de la chair de poule. T'as l'impression d'être chez toi. J'avais jamais vu ce lieu, je ne connaissais pas qui était dedans. Il y avait deux personnes dedans, une personne au comptoir, une personne qui est assise à une table à gauche. Et je rentre et je dis au monsieur qui est en face de moi, qui est donc le serveur et propriétaire du bistrot en question, il y a une ambiance hyper chaleureuse chez vous, ça se sent tout de suite, je l'ai senti tout de suite lorsque je suis rentré. Il me dit, oh, bah, c'est très gentil de me dire ça. J'ai fait ce bar, attends, tu vas voir la suite. J'ai fait ce bar pour que les gens du village puissent venir jouer, faire de la musique ensemble et se rencontrer. Déjà, tu vois, il y a un petit silence qui s'installe. La conversation prend une dimension un petit peu différente. Il continue et il me dit, je suis très content que vous me disiez ça parce que c'est exactement ce que j'ai cherché à faire depuis que j'ai quitté mon dernier job il y a 15 ans. Et j'ai tout lâché. Je gagnais bien ma vie. J'ai tout lâché, j'ai acheté ce bar et ma seule vocation aujourd'hui, et ce qui me rend le plus heureux, c'est d'avoir des gens qui viennent jouer au piano, jouer de la guitare ou chanter des chansons provençales. Et il rajoute et il me dit, et vous faites quoi? Je dis, bah, je m'entraîne, je vais faire du vélo, machin. Ah ok, très bien. Et je lui dis, bah, c'est amusant ce que vous me dites. Et je lui rajoute, c'est intéressant ce que vous me dites parce que je suis vraiment dans cette phase où je suis en train de réfléchir à ce que je garde et ce que je lâche et ce que j'arrête de faire et ce qui est vraiment important pour moi. Et je suis vraiment intéressé par ce que vous me racontez sur le fait que vous avez lâché votre ancien job, le fait que vous gagnez bien votre vie et que vous avez préféré venir ici avec votre femme qui était d'ailleurs en cuisine en train de préparer les repas pour vous installer ici. Et il me dit, c'est le plus beau cadeau que je me suis fait et que je vous souhaite de vous faire, de tout lâcher pour être là pour les autres. Et il m'a offert mon café. Et ben voilà, tu voulais une minute de silence, tu l'as. Ça te va ?
Ah ben moi ça me va toujours. J'ai hésité à raccrocher pour finir là-dessus.
Eh ben, tu peux.
Ben, je pense qu'on va terminer là-dessus.
Merci beaucoup, Richard.
À bientôt, Jeanlin. Passe une excellente journée. Merci.
Merci, toi aussi. Ciao, ciao.